Poursuivons notre culte ce matin en lisant la parole et en l'écoutant, mais aussi dans la poursuite de cette célébration de l'Avent. Et je vous invite, pour démarrer cette méditation, à lire un texte que je tire du prophète Ésaïe au chapitre 63. Nous lirons à partir du verset 15. Regarde du haut du ciel et constate la situation. Du haut de ta sainte et splendide résidence, où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. C'est toi, cependant, qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens, reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Nous rentrons maintenant dans cette période de l'Avent, où pour nous, c'est probablement un grand sujet de joie à l'idée de préparer Noël, à l'idée de se retrouver en famille, avec des amis, et puis de pouvoir aussi se focaliser sur la venue de notre Sauveur, qui pour nous est un événement extrêmement important et qui est certainement l'événement le plus important de notre vie. Mais force est de constater que le monde dans lequel nous vivons va vivre une période aigre-douce. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes les personnes qui se préparent pour Noël, qui vont se faire des cadeaux, qui vont se réjouir, et en même temps, il va y avoir, pour certains, un arrière-goût, en se disant, est-ce qu'il y a vraiment une raison de faire la fête? Et lorsqu'on regarde autour de nous, on peut se demander et se dire, lorsqu'on regarde dans notre propre vie, lorsqu'on regarde dans le monde, est-ce qu'il y a vraiment des raisons de faire la fête? Il suffit d'ouvrir le journal, il suffit d'écouter la radio, pour se demander si le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a les raisons de faire la fête à Noël. Ou alors est-ce que nous faisons la fête simplement pour oublier, pour nous enivrer, pour dire tout simplement, faisons une parenthèse et regardons à nous-mêmes et essayons d'oublier. Et c'est pour ça que l'Avent nous sert en tant que chrétiens. Parce que c'est une façon pour nous de nous mettre peut-être dans une position avant que le Seigneur soit venu. Pour nous dire, c'est quoi le monde? C'était quoi notre vie? Avant que le Seigneur ne vienne, ou si le Seigneur n'était pas venu? Et l'Église, depuis très longtemps, s'est dit, il est bon que nous nous associons aux gens de l'Ancien Testament, ceux qui nous ont précédés dans la foi, pour essayer de comprendre ce que c'était que de vivre dans un monde où Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et où tout ce qu'on avait, c'était simplement la parole du Seigneur qui nous annonçait qu'un jour, son libérateur viendrait. Et là, l'Église essaye de se remettre dans une position pour se dire, mais quelle est vraiment la différence que l'événement de la naissance de Jésus a opéré dans notre monde. Bien sûr, c'est aussi une période pour nous souvenir que Dieu a donné des promesses et que Dieu est resté fidèle à ses promesses. Parce que le jour est arrivé où toutes ces promesses qu'il avait faites à propos du libérateur se sont réalisées dans la venue de Jésus-Christ. Et pour nous, c'est extrêmement important en tant qu'Église aussi parce que nous vivons de la promesse qu'il reviendra. Et que si nous n'avons pas eu l'exemple des croyants de l'Ancien Testament qui se sont attachés à ces promesses et qui ont vu ce jour se réaliser, il nous serait peut-être plus difficile à nous aussi de tenir ferme à la parole du Seigneur pour croire que le Seigneur reviendra et qu'en ce jour-là, cette libération totale se réalisera, que notre joie sera parfaite, que le rétablissement de tout ce qui tourne mal aujourd'hui dans notre monde et dans notre propre vie sera enfin rétabli. C'est pour ça que cette période de l'Avent est tellement précieuse pour nous. Parce qu'elle nous force à nous remettre dans une position pour dire qu'est-ce qui s'est effectivement passé le jour de Noël et quelle différence cela a fait. Et il nous arrive peut-être, et certainement notre monde est dans cette situation-là sans vraiment peut-être le savoir et l'exprimer à sa façon, mais peut-être nous aussi nous nous trouvons dans cette situation où on dit simplement « Seigneur, si seulement tu pouvais déchirer tout ce qui est en train de se passer et descendre. » Moi j'étais en Israël avec Isabelle 2 jours avant que ça pète là en ce moment là, entre Gaza et tout. Et on se dit, mais qu'est-ce qui peut à un moment faire que cette situation inextricable, tout d'un coup, soit ouverte et que la paix descende, que la bonne volonté descende et que la situation se rétablisse. Et on est tous dans des situations où on peut se dire, mais si seulement, Seigneur, tu pouvais faire quelque chose. Moi, quelquefois, je me dis, si seulement Barack Obama, il faisait quelque chose. Mais Barack Obama, il est aussi limité que nous tous. Et on est dans ces situations inextricables où on n'arrive pas à sortir. Et comme le peuple, tout ce qu'on arrive à dire, c'est si seulement, Seigneur, tu déchirais les cieux, tu descendais, ben toute cette montagne, elle s'effondrerait. Si seulement, Seigneur, tu descendais, le Mont Blanc, là, plat, on verrait l'Italie. Combien de montagnes est-ce qui reste encore dans notre monde? Combien de montagnes est-ce qui reste encore dans notre propre vie? On se dit, Seigneur, si seulement tu intervenais. Et nous avons des montagnes qui restent dans nos vies. Et plus on avance en âge, plus on se rend compte que ces montagnes, elles sont grosses. Ou alors sont difficiles à déplacer. Puis on se dit quand même, le Seigneur, il était quand même un peu culotté en disant, si vous aviez un tout petit peu de foi, vous pourriez prier, et puis ces montagnes que vous verriez, elles iraient se jeter dans la mer, là. Tout ça, tout simple. Mont Blanc, déplace-toi dans le lac. Il reste des montagnes. Et il est bon que durant la période de l'Avent, on se pose la question de quelles sont ces montagnes, et est-ce que oui ou non, la venue de notre Seigneur a fait une différence. Oh, vous allez tous me répondre, oui, le Seigneur fait une différence. Et je pourrais vous laisser ma place ici, vous pourriez venir et raconter mille et une situations où vous dites que le Seigneur a fait une différence. Mais ce que j'aimerais ce matin, dans un sens, c'est pas simplement essayer de piocher dans nos propres vies les raisons pour lesquelles nous pouvons croire que le Seigneur a fait une différence. Parce que si c'était le cas, s'il suffisait simplement de regarder nos vies, nous serions tous parfaits, tout irait bien, on n'aurait plus de questions, tous nos problèmes seraient résolus. Mais j'ose croire que si ce langage est aussi hyperbolique, aussi extraordinaire que de dire « ces montagnes s'aplatiraient », c'est que ce que le Seigneur a prévu de nous apporter est aussi extraordinaire que le Mont Blanc qui se jette dans le lac. J'utilise de la poésie, mais je le fais exprès. Parce que ce qui s'est passé au moment de la venue de Jésus doit, dans un sens, nous arrêter dans nos traces et dans nos bottes. Et il nous faut nous saisir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'il y a un avant et il y a un après Jésus. Le changement, ce n'est pas pour maintenant. Le changement, ça s'est déjà passé. Et j'aimerais, dans un sens, me tourner vers le Nouveau Testament. Et j'aimerais, dans un sens, souligner quatre choses qui vous paraîtront peut-être évidentes. Mais lorsqu'on prendra le temps, peut-être durant cette période de l'Avent, pour y penser, on verra que bien souvent, on ne vit pas de ce que le Seigneur nous a apporté. Et j'aimerais mettre le doigt ou toucher du doigt quatre sujets. La première des choses, c'est que lorsque Jésus est venu et qu'il est né dans une étable, qu'il est né en Palestine sous l'Empire romain, personne ne s'y attendait. D'accord ? Avec tous les pronostics, tout ce qu'on avait pu lire sur l'Écriture, avec les 15 ou 16 siècles de méditation de l'Ancien Testament, personne ne s'était dit « il va naître dans une étable et il va naître en Palestine et il va naître de personnes qui ne sont absolument pas éduquées ». Ce que le Seigneur a fait en Jésus-Christ, c'est qu'il a décidé que ce serait la folie de ce monde qui serait la voie du salut. Ça serait la folie de ce monde qui serait la voie du salut. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, c'est la folie de la croix, parce que personne n'aurait pu jamais imaginer qu'un salut arrive en mettant quelqu'un sur une croix et en le faisant mourir. Parce que ça, c'est le signe de la défaite. Personne n'aurait jamais pu imaginer que ce qui allait présider dans un sens au salut, ce soit l'amour et non pas la justice, un pour un, la loi du talion. Personne n'aurait jamais pu imaginer que l'œuvre de la mission, ce serait aussi de tendre la joue droite lorsqu'on vous frappe sur la joue gauche. Personne n'aurait jamais pu imaginer que l'Église naisse d'une bande de 12 personnes qui n'avaient aucune éducation, qui étaient de vulgaires pêcheurs sur le lac de Tibériade et qui n'étaient pas sortis de l'élite. Bon, ici, il y a eu un petit Paul après qui était un petit peu un gars de l'élite. Mais enfin bon. Mais personne n'aurait pu imaginer une chose pareille. Et ce qui est arrivé à la suite de cette prière, si tu déchirais le ciel et que tu descendais, c'est que le Seigneur, il nous fait dire, ça ne se passe pas toujours comme vous le pensez ou comme vous le calculez. Ça, vous le savez, je le sais. Le problème, c'est que je ne vis pas avec cette conviction-là. C'est que j'ai toujours tendance à aller vers les choses les plus rationnelles, celles qui ont le plus de sens pour moi, celles que je peux expliquer, et je ne m'attends pas à ce que le Seigneur intervienne d'une façon complètement différente, avec un système de valeurs différent que celui que j'ai. Combien de fois est-ce que j'arrive à me retrouver dans des situations où je dis « c'est impossible de s'en sortir », même en tant que chrétien, c'est impossible de s'en sortir. Il faudra simplement qu'on attende le retour du Seigneur et qu'un coup de baguette magique soit résolu. Mais le Seigneur nous dit que c'est par sa folie. Combien de fois est-ce que nous nous laissons interpeller en disant « c'est comme ça que je pense, c'est comme ça » et en même temps, je vois le décalage avec ce que le Seigneur semble et on n'arrive pas. Moi, je me dis encore, si quelqu'un me frappe, mieux vaut que je le frappe, comme ça il comprend que ce n'était pas bien de me frapper. Et comme ça, la situation sera résolue. Si je me dis, je tends la joue gauche, je ne fais que simplement lui dire, tu sais, tu peux continuer à me frapper. Mais ça reste ancré dans ma tête de penser comme ça. Combien de fois est-ce que nous nous laissons interpeller par la folie de l'Écriture ? Et lorsque les gens priaient cette prière-là, Il ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça s'est passé. Et ça me conduit à mon deuxième point, qui est celui que vous savez, je veux dire, on construit tout là-dessus. C'est la grâce qui découle de ça. Le problème, c'est que l'homme, lui, il finit par bâtir ses propres montagnes devant lui. Et il se retrouve empêtré, encerclé de montagnes parce qu'il les a construites en voulant bâtir ses propres systèmes et en voulant prouver à Dieu et à lui-même qu'il est quelqu'un de bien et qu'il peut s'en sortir. Et ici, qu'est-ce que Dieu fait, et encore qui était totalement inattendu, c'est qu'il va dire, moi, mon système, celui de la grâce. Et je vais complètement inverser ce que vous pensez. C'est très simple. Le système de la loi, c'est tu agis bien, tu vivras. Le celui de la grâce, c'est tu vis par la grâce, donc tu agiras. Dieu, il prend les deux et il les inverse complètement. Et nous avons des textes extrêmement précis là-dessus, où il nous est dit que lorsque nous vivons par la loi, c'est-à-dire lorsque nous cherchons à démontrer que nous pouvons respecter la volonté de Dieu et donc être dignes de ce qu'il nous doit, ben l'Épître aux Romains nous dit en fait que la loi a entraîné non pas la délivrance de la faute, mais la multiplication des fautes. Et plus on cherche à essayer de se justifier, plus on s'empêtre. Et plus cela devient une montagne, parce qu'on se rend compte, comme le peuple ici dans ce texte, que les fautes abondent. Les fautes abondent lorsqu'on cherche à faire les choses bien par soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'il nous est dit que le Seigneur, il nous est dit que lorsque nous étions sans force, lorsque comme ce peuple on était épuisé, il ne restait qu'une chose, c'est de crier au Seigneur. C'est à ce moment-là que Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions nous-mêmes épuisés en essayant de nous prouver à nous-mêmes et de prouver à Dieu, et qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se dressait devant nous? C'est simplement ces obstacles, je n'y arrive pas. Et le Seigneur, lui, a complètement renversé la façon de fonctionner avec les hommes. Je te fais grâce. Chers amis, moi j'ai été une fois interpellé aussi par un des derniers versets qui se trouve dans une des épîtres de Pierre à la fin, où il dit « Croissez dans la grâce ». Moi j'avais toujours compris, la grâce c'est au début. Et là, de sentir cette exhortation de l'apôtre Pierre qui dit « Mais continuez de croître dans la grâce ». Et c'est là où j'ai été arrêté en me disant « Mais c'est vrai, combien il est facile de retomber dans un système où tout simplement je me prouve à Dieu, je me prouve aux autres. Et il est tout aussi facile pour nous en tant que chrétiens, même si nous nous sommes convertis, même si nous avons reconnu la grâce, c'est de nous retrouver dans un système où il nous faut de nouveau prouver que nous sommes de bons chrétiens et aux yeux de Dieu, on est des gens bien. Et encore plus, nous cherchons à le prouver les uns aux autres, que nous sommes des gens bien. Et c'est pour ça que, me semble-t-il, durant la période de l'Avent, il faut prendre conscience du fait que le Seigneur a complètement inversé le mode de fonctionnement. Et que tous nos efforts à essayer de bâtir nos propres vies et à être qui nous voulons être n'est simplement qu'une façon de continuer de bâtir ces montagnes autour de nous, plutôt que de lâcher prise et que le Seigneur aplanisse la vie devant nous. Et tous ces textes qui nous encouragent à croître dans la grâce doivent nous mettre en garde contre le fait de peut-être la considérer comme acquise, mais souvent de nous retrouver dans une façon de fonctionner où on est tout simplement en train de nouveau de tomber sous la loi. Et il suffit de prendre toute la situation que l'apôtre Paul a dû gérer en Galatie et lorsqu'il écrit l'épître aux Galates, et là avec Pierre, tout d'un coup, Pierre, lui, il avait glissé de nouveau, il s'était retrouvé dans un système où il fallait respecter la loi pour être digne de Dieu. La troisième chose qui me paraît extraordinaire depuis que Jésus est venu, c'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit que par le sang de Christ, nous avons un libre accès à Dieu. Approchons-nous donc. Et là encore, ça revient à tout simplement des systèmes où les dieux étaient tellement saints, tellement beaux, tellement parfaits, qu'on les enfermait dans des lieux saints et même des lieux très saints, parce qu'il était impossible que nous ayons contact avec eux. Alors on a ça dans l'Ancien Testament, mais on a ça dans d'autres religions aussi. Les dieux sont tellement bons, parfaits, beaux et tout ça, qu'il est impossible, impossible, si ce n'est par le truchement de sacrifices, de prêtres, de systèmes, de peut-être arriver à ce que Dieu daigne tendre son oreille et nous écouter. Et combien d'entre nous est-ce que nous nous sentons parfaitement indignes lorsque nous prions de simplement venir à Dieu, ou on se dit on va le déranger, ou alors qui est-ce qu'on est ? Et je suis certain que c'est des choses qui vous tirent encore vers le bas. Parce que l'adversaire est toujours là pour nous dire, mais toi, attends, Dieu, toi. Et ici, Jésus dit, vous avez un libre accès. Et on a eu cette magnifique image lorsque, ou image, ce magnifique événement lors de la mort de Jésus, où tout d'un coup ce rideau qui en fait séparait le lieu saint de tous les hommes se déchire. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez rentrer. Et ça va tout de parallèle avec les textes aussi que le Seigneur, lorsqu'il parle à ses disciples, vers la fin, il dit, vous savez, moi, maintenant, je ne vais plus vous appeler serviteur, je vous appelle ami, c'est parce que je vous ai tout dit à mon sujet. Je ne vous ai rien caché, vous savez, vous connaissez le cœur de Dieu. Je vous l'ai annoncé, je vous l'ai dit, et c'est pour ça que vous êtes mes amis. Et plus tard, il ira un pas plus loin en disant, vous êtes mes frères. Parce que nous sommes unis ensemble dans la vie que le Seigneur a toujours voulu pour les hommes. Chers amis, il n'y a personne ici qui a quoi que ce soit dans sa vie. Il n'y a personne ici qui, par manque de capacité, qui par quoi que ce soit, n'ait pas le libre accès à Dieu. Et je suis certain que si on ouvrait la discussion, on aurait tous encore des explications pour dire « non, je ne suis pas trop ceci » et l'adversaire est continuellement en train de nouveau essayer de créer cette distance entre Dieu et nous. Mais ce qui nous est dit ici et ce qui nous est répété, c'est que nous sommes les frères du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ce libre accès. Et une troisième image qui est extrêmement forte, qui est utilisée par l'apôtre Paul, c'est que nous avons été adoptés. Maintenant, dans votre esprit, l'adoption, c'est peut-être un enfant de seconde zone. Mais dans le système grec, à l'époque, lorsqu'on adoptait un enfant, c'était un enfant qu'on ne pouvait absolument pas répudier. On peut répudier ses enfants naturels, mais on ne peut pas répudier les enfants qu'on a adoptés. C'est l'engagement que le Seigneur a pris à notre égard lorsqu'il nous a adoptés. Et je pourrais continuer là-dessus sur l'expression « Abba Père » et tout ça qui nous encourage à venir, à rentrer. Jamais on ne dérange le Seigneur. Le Seigneur a déchiré le ciel, le Seigneur a déchiré le voile, le Seigneur a déchiré tout ce qui pouvait nous séparer de lui pour dire « viens ». Est-ce que nous exploitons au maximum cette liberté, cet accès que nous avons auprès de notre Père et auprès de notre Dieu dans notre propre vie? Ou est-ce que nous essayons de nous pomponner encore jusqu'à ce qu'on soit à peu près suffisamment beau pour ensuite, à un moment ou à un autre, se présenter devant lui? Et puis le quatrième point qui, moi, me frappe aussi, c'est que le Seigneur n'a pas simplement changé notre statut devant lui en disant « ça y est, tu es gracié, ça y est, tu es mon fils ou ma fille, etc. » mais c'est qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit pour commencer à transformer notre personne. Et peut-être une des choses qui nous déçoit le plus dans ce monde, ce n'est pas tellement les événements qui nous sont extérieurs, c'est souvent nous nous décevons nous-mêmes. Et nous sommes déçus de qui nous sommes. Nous sommes déçus de ce que la parole n'ait pas pu nous transformer davantage. Nous sommes déçus de ce que nous péchons sept fois le jour. Et pourtant ici, il nous est dit que le Seigneur nous a envoyé aussi son Saint-Esprit pour inscrire cette loi dans notre cœur, afin qu'elle ne soit plus quelque chose d'extérieur qui nous soit imposé, mais que ce soit quelque chose qui soit en nous, qui fasse partie de nous, qui jaillisse de nous, et que nous soyons transformés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, utilise cette expression en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est simple, toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont nouvelles. » Eh bien, vous savez, on est bien peu dans cette salle à penser que toutes les choses anciennes sont terminées, que toutes choses sont nouvelles. On a tous mille et une raisons de dire « il y a encore des choses qui traînent du passé ». On ne se change pas du jour au lendemain comme ça. Et pourtant, l'apôtre Paul, il dira « toutes choses sont passées, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles ». Et il vivait dans un monde qui n'était pas très beau lui non plus. Et il pouvait constater des gens qui avaient eu des drôles de comportements dans leur vie, qui sortaient de drôles de situations. Et pourtant, il les regardait, il dit « en Christ, tu es une nouvelle créature ». Et il pouvait croire qu'il y avait ce changement. Et cela nous ramène au fait que lorsque Jésus est venu nous chercher et qu'il est venu sur terre, il a dit « Moi je suis venu parce que je vous ai choisi et je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que ce fruit soit durable. » Nous avons la capacité, par la volonté du Seigneur et par l'Esprit qu'il a mis en nous, de devenir des personnes extraordinaires, de pouvoir faire la volonté du Seigneur, de pouvoir surmonter un certain nombre d'obstacles qui sont en nous et de pouvoir observer que jour après jour, nous sommes transformés par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Et là, je ne fais que citer une ribambelle de textes bibliques qui nous sont donnés. Combien de fois est-ce que nous sommes déçus de qui nous sommes ? Déçus de ce que nous ne fassions pas plus de progrès ? Ou combien d'entre nous nous sommes résignés tout simplement en nous disant « c'est trop dur ». Et pourtant ici, il est dit « si, tu peux changer ». Et mon esprit en là est pour toi, pour t'aider. Ma parole qui est vivante est là pour te guider. Tu peux avancer. Et là encore, c'est un des sujets qui m'a frappé. Parce qu'encore une fois, moi-même, je me résigne à simplement me mettre dans un mode de patience et de stand-by peut-être jusqu'à ce que le Seigneur revienne parce que je me dis c'est beaucoup trop compliqué. Et le Seigneur jamais ne nous dit « résigne-toi ». Jamais. Alors bien sûr, quelquefois, peut-être des situations où, comme l'apôtre Paul, cette écharpe dans la chair, le Seigneur a dit « Moi, je te la laisse pour l'instant, mais ma grâce te suffit. » Parce que le Seigneur continue d'opérer son œuvre en Paul par cette écharpe. Non pas que le Seigneur n'avait pas les moyens de le surmonter. Non pas parce que l'apôtre Paul il dit « Il faut que je trouve une explication. » C'est aussi parce que le Seigneur utilise ces choses qui sont difficiles pour nous transformer. Mais jamais est-ce qu'il nous dit « résigne-toi et abandonne ». Et il n'y aurait pas eu de Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu cette parole du Nouveau Testament s'il n'y avait pas eu la première venue de Jésus-Christ. Chers amis, ce sont là les quatre points qui, pour moi, me frappent et qui me semblent être quatre points, il pourrait y en avoir d'autres, certainement d'autres vous viennent à l'esprit, mais de la différence que la venue de Jésus-Christ a opérée dans notre monde et doit opérer pour nous. Et si je les ai cités ce matin, ce n'est pas tellement que vous ne les connaissiez pas, parce que peut-être j'ai enfoncé des portes ouvertes. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que je ne vis pas toujours dans cette nouveauté. Je suis encore comme les gens de l'ancienne alliance et tout ça, qui peut-être cherchaient à bâtir leur propre système. Moi, j'ai toutes les raisons pour penser que le Seigneur doit s'intéresser à d'autres personnes qui sont bien meilleures que moi. Et j'ai une tête qui fonctionne bien pour bien rationaliser les choses, pour me dire, Seigneur, c'est pas tout à fait comme ça que tu devrais faire les choses. Ou ça ne peut pas marcher la façon dont toi tu as pensé. Et je me vois glisser même de façon subtile. Et que dans cette période de l'Avent, c'est simplement de se dire à nouveau, non pas qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie, parce que je crois que bout à bout, tous nos témoignages n'arriveraient pas encore à totaliser ce que le Seigneur est prêt à faire, mais en regardant dans sa parole et en voyant par exemple ces quatre points-là, on peut se dire, waouh, Noël, ça a quand même été sacrée révolution. Et que de grandes choses ont changé et qui nous permettent aujourd'hui de vivre une vie complètement différente. Chers amis, lorsque le Seigneur intervient dans des vies avec ce genre de dynamite-là, c'est sûr que ça crée des remous. Et il est facile de voir dans l'Écriture un certain nombre de personnages où tout simplement lorsque ils ont laissé rentrer le Seigneur avec cette puissance de nouveauté, leurs vies ont été complètement chamboulées. Alors ça commence avec des changements radicaux. Vous regardez Moïse lorsqu'il a été en présence du Seigneur devant le buisson ardent. Joseph et Marie, leur vie a été complètement transformée, ou même juste avant, Zacharie. Vous regardez les disciples qui étaient des pêcheurs d'hommes et tout d'un coup, avec une simple parole et la rencontre du Seigneur, à quel point leur vie a été complètement transformée. Des choses inimaginables de leur côté. Vous prenez la femme samaritaine ou la femme adultère et de voir lorsque le Seigneur lui tend simplement la main en lui disant « Va et ne pêche plus, moi non plus, je ne te condamne pas. » À quel point il y a une puissance dans cette parole pour transformer des vies. Mais il y a peut-être une des dernières choses que j'aimerais souligner aussi, c'est que ce texte que nous avons lu ce matin est une prière. Et la prière a une grande efficace. C'est peut-être pas à la suite de cette prière-là que le Seigneur a développé son plan de salut, mais c'est une prière comme celle-là qui a conforté le Seigneur dans le fait qu'il devait accomplir son plan. Et cette prière, il ne l'a pas laissée sans réponse. Et pour nous, si nous voulons saisir ce que le Seigneur nous a donné au moment de Noël, et ces quatre points, c'est aussi dans la prière, en sa présence, que nous pourrons les saisir. Et j'ai comme l'impression que le Seigneur, il aime entendre ses prières, et que le Seigneur répondra à ses prières. Chers amis, je vous invite à profiter de cette période de l'Avent. Non pas simplement pour vous dire, je vais me réjouir encore parce que c'est Noël et tout ça, mais simplement de vous poser la question, qu'est-ce qui a été de nouveau à Noël? Et qu'est-ce que je vais pouvoir à nouveau saisir pour laisser cette œuvre extraordinaire venir transformer ma vie? Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois te louer et te remercier, oui, pour cette période de l'Avent, et nous te remercions de ce que nous pouvons chanter, nous te remercions de ce que pouvons nous réjouir. Mais Seigneur, aide-nous à nous réjouir au-delà de la belle lumière, la neige, la musique, la famille, la bonne nourriture, pour voir, Seigneur, ce que toi tu as accompli à Noël. Et cette ère nouvelle que tu as inaugurée pour nous, cette œuvre que tu accomplis en notre faveur qui fait qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons en toute confiance savoir que nous sommes pardonnés de notre péché. Savoir aussi, Seigneur, que ton esprit est entré en nous et veut agir. Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous rendre perméables à cette nouveauté. Et je te demande, Seigneur, que toutes ces choses que nous savons déjà, que tu puisses les ranimer. Et que par elle, Seigneur, tu puisses nous faire progresser encore dans cette œuvre de transformation que tu as inaugurée en nous. Seigneur, nous te louons aussi parce que ce que nous serons un jour en toi, nous n'arrivons même pas à l'imaginer, nous dit l'apôtre Jean. Mais en même temps, Seigneur, nous pouvons être certains que ce que tu as commencé, tu le rendras parfait. Seigneur, nous te louons ensemble et nous te bénissons pour cela. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as effectivement déchiré le ciel et tu es descendu. Au nom de Jésus, amen.
Merci. Ah, super. Tout ce qu'il peut y avoir dans une petite flamme, tout ce que ça peut apporter. Et je me disais, par rapport à notre fête de Noël, qui était de très bonne heure, 1er décembre, fête de Noël, c'était pas terrible, mais que ça nous permet d'avoir posé une base très claire et d'avoir tout le mois de décembre pour y réfléchir et pour y re-réfléchir. Et je pense que tous les dimanches, quand vous verrez une autre flamme allumée, vous aurez peut-être votre réflexion qui se remettra en route. Voilà. Merci en tout cas pour tous ces apports pour ce matin. Je ne sais pas dans quel sens faire mes annonces. J'en ai mis un petit peu dans tous les sens d'ailleurs. Voilà. Voilà, on va commencer quand même dans l'ordre là. Donc hier, on a eu notre fête de Noël. Merci. Moi, j'aimerais remercier chacun pour sa participation. Bon, beaucoup sont encore couchés ce matin. Ça fait rien. Ils ont bien mérité leur repos aussi, et on peut penser à eux aussi. Mais juste vous dire que deux ou trois petites choses par rapport à la fête de Noël. D'abord, vous pouvez aller faire un tour en bas. Il y a des habits, il y a des plats, il y a des choses comme ça qui ont été oubliées, qui sont parvenues, que vous n'avez pas repris. Donc allez jeter un petit coup d'œil en bas, ça serait bien aussi. Et puis, cette fête de Noël, elle coûte aussi de l'argent, vous imaginez. Alors pensez-y dans vos... Aussi, si vous aviez des invités, si vous avez eu du plaisir, pensez-y aussi dans l'offrande. Et je voudrais profiter pour rappeler quelque chose qu'on n'avait jamais dit non plus, et un petit peu de mémoire, ça fait du bien de travailler la mémoire aussi. On a eu le col des Mosses, vous vous souvenez? Ceux qui y étaient, qui étaient au col des Mosses? Ah, super. On a eu le col des Mosses, et au col des Mosses, vous vous souvenez qu'on s'est posé la question à combien revient le week-end du col des Mosses, qui paye, etc. Voilà, des choses comme ça. Juste vous donner une indication. Et vous, après, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous y repensez aussi. Le week-end des col des Mosses coûte pour un adulte 24 euros. Et pour un enfant, une douzaine d'euros. Ça vous donne une idée aussi, à penser aussi dans votre offrande aussi. Voilà, ça c'était des petits détails très très pratiques. Là on vient dans le terre à terre, hein, vraiment. Hein. Mais ça fait aussi partie du partage et des choses qu'on veut vivre ensemble. Pour cette semaine, jeudi soir, étude biblique. On continue l'étude de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et je vous invite à venir partager ce moment, c'est enrichissant pour chacun aussi. C'est tout ce qu'il y a comme activité cette semaine, à part le groupe de jeunes, je crois, qui est prévu samedi soir. Mardi 12, donc la semaine d'après, donc le goûter des aînés. On veut aussi penser à nos aînés aussi et leur souhaiter d'avoir aussi un bon temps de fin de ces études bibliques d'année qu'ils ont aussi mois par mois. Voilà pour deux choses. Une autre chose qui va être entre-temps, j'aurais dû la dire avant peut-être chronologiquement, on a été occupé samedi passé avec la banque alimentaire, on a été occupé hier avec notre fête de Noël et on est occupé encore samedi prochain avec le Téléthon. Alors le Téléthon, ça se passe comme ça. Vous savez comment se passe le Téléthon. Mais notre participation au Téléthon, c'est d'assurer le repas du samedi midi ici, sur la commune de Prévesin. Et donc, on a besoin d'aide. Alors, le repas, il va être fait. Hein, tout est déjà prévu, heureusement. Mais on aurait besoin d'aide de 11h à 13h30 à peu près. C'est pour mettre le couvert et c'est pour... servir sur les tables. Alors, c'est important, c'est qu'on a demandé à plusieurs groupes, mais qui ont plus ou moins répondu pour l'instant. Donc, il faudrait vraiment cette semaine, rapidement, que vous adressiez à Philippe Geyser et vous lui dites, moi, je suis d'accord de venir donner 2 heures de temps, 2 heures et demie. C'est pour un service tout simple. Hein. Donc, groupe d'ados, groupe de jeunes, même si vous avez déjà dit, on participera, maintenant, il nous faut savoir combien il y en a de personnes. En gros, on attend 200, oui, on nous a demandé de faire à manger entre 150 et 200 personnes. Hein. Donc, on va faire entre 150 et 200, je crois. Donc, voilà, ça vous donne une idée. Hier, on était 240 à manger. Ça donne une idée du volume que ça prend, hein, à peu près. Il y avait 200 places de prévues hier. Vous avez vu qu'il y avait plus de monde qui s'était arrêté là. C'était bien. C'était super. Vous allez devoir rajouter des tables. Hein. Alors, je suis où? Moi, je ne sais plus du tout où j'en suis. Voilà. Non, alors, maintenant, voilà, c'est une annonce un petit peu spéciale que je vais vous faire. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, d'abord? Ouh là là. Il y a 3 personnes qui ont levé la main. Allez-y. C'est la même que Christiane. Christiane, elle veut dire 8h30, elle. Non? Voilà, la chorale, donc, la chorale. Puis la chorale, on fait la pause cette semaine. Hein. Il y a aussi certaines personnes, il y a aussi une autre réunion cette semaine. Mais je vous l'appellerai après, personnellement. C'était pour ça? Alors, Anne-Marie, encore.
Il n'y a pas de pile.
Parce que c'est la technique quand même. Hein. Alors voilà. Et puis Raymond encore.
Le goûter, tu peux rappeler le jour exact parce
que... Alors le goûter des aînés, écoutez bien, ça c'est une annonce précise. C'est le mercredi 12 de 15h à 17h pour les aînés. Est-ce que les aînés ont compris? Faut être à la retraite. Faut être à la retraite, Philippe. C'est pas encore pour toi. Raymond.
Juste annoncer que le mercredi 12, justement, à 14h, on charge le container. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas d'activité,
voilà. Les non-aînés. Donc tous ceux qui ne sont pas à la retraite, voilà, chargement du conteneur. Oui, venez, allez voir Raymond. 14h12. Merci. Voilà, est-ce que Rémi, tu pourrais afficher ce panneau? Voilà. Alors, je vous demande de regarder cette affiche de façon précise. On va vous expliquer ça. Il y a un texte en haut qui dit « Le bien que nous recevons » pendant la prière, est bien plus important que celui que nous recevons par une réponse à la prière. Et c'est un des pères de l'Église, enfin une des personnes qui a compté dans la création de l'Église. Alors regardez bien cette chose-là. On aimerait vraiment que... on va vous le redonner tous les dimanches, cette chose-là. Le Conseil d'anciens vous avait fait part, lors de réunions de membres, de l'importance de la prière et de l'importance... suite aux questionnements qu'on a eus, suite au peu de monde dans les réunions de prière, suite à différentes choses, suite aussi à un problème de restructuration dans l'Église et de réflexion. Donc, on a réfléchi à faire un travail personnel sur la prière, ici dans l'Église. C'est une série qui aura lieu le samedi 19 janvier, 9h30, c'est le café. Hein ? Mais après, continue de 10h à 18h30. Alors, on vous invite vraiment, dans un premier temps, on vous invite vraiment à mettre ce 19 janvier de côté pour venir participer à cette soirée, à cette journée, vous engager. C'est pas du tout une étude biblique comme vous l'imaginez, du tout. Ça sera quelque chose de très interactif, ça sera quelque chose de varié, d'heureux, de joyeux. On a un orateur qui s'appelle Yann Newberry, qui va venir, qu'on a reçu ici, et qui est spécialiste de séminaire sur la prière, qui va d'ailleurs arrêter son travail de pasteur. Il est actuellement pasteur à Pierrelatte. Il va arrêter son travail de pasteur dans le printemps pour se consacrer entièrement à ses séminaires. C'est quelque chose de nouveau. Ça sera quelque chose de nouveau pour vous. Et on invite vraiment chacun, notre idée, c'est que chacun des membres de l'Église puisse participer. Alors ça va être différent de ce que vous faites d'habitude, de ce qu'on fait d'habitude. Il va y avoir une petite préparation à faire, on vous expliquera dans les dimanches qui viennent, une réflexion personnelle. Mais ce qu'on voudrait vraiment, vraiment vous inviter dès maintenant, c'est à mettre de côté, qui que vous soyez, ça s'adresse depuis le groupe de jeunes jusqu'au plus à ceux qui viendront le 12 après-midi, par exemple. Toutes les personnes de l'Église, donc, c'est vraiment une réflexion personnelle et un travail d'abord personnel, mais un travail qui va aussi, dans l'Église, nous faire un énorme bien. Il s'adresse vraiment à chacun. Voilà, on souhaiterait que tous puissent participer, je l'ai déjà dit. C'est important, important pour nous, important pour vous. On est tous au même niveau, là. Alors, on vous en parlera dimanche après dimanche, avec des détails, on ne va pas tout vous dire aujourd'hui, mais relisez ce petit texte qui est en haut. C'est ce qui nous semblait important. On a vraiment voulu mettre celui-là aussi ce matin. Alors, ça changera un petit peu de suivant les dimanches. Il y aura peut-être d'autres textes qui vont venir un petit peu là. Et on vous donnera des détails. C'est aussi quelque chose qui va être nouveau parce qu'on va devoir s'inscrire à l'avance. C'est-à-dire, vous allez devoir nous dire, voilà, je viens le 19 janvier. Et ça, on va le faire assez rapidement. C'est-à-dire, dans le mois de décembre, il faut absolument s'inscrire pour ça parce que ça demande, vous verrez. D'autres choses. En tout cas, on vous encourage et on a eu nous beaucoup beaucoup de plaisir à recevoir Yann ici lundi passé et à partager. On a été vraiment, je vais pas dire bluffé parce que on n'a pas envie d'être bluffé justement. On a été vraiment saisi par les choses qu'on n'a pas pu partager avec lui aussi. Voilà. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Gardez cette date, 19 janvier. Il y a d'autres choses? Voilà, les calendriers, hein, c'est comme la vignette suisse, hein, il faut l'avoir dès le 1er décembre. Hein, alors les calendriers, vous pouvez y aller, hein, allez les chercher. Voilà, calendrier, les bouquins, si vous avez commandé des choses. Voilà, je vous invite à vous lever et je vous relirai un petit passage qu'on a déjà entendu hier, mais qui peut-être en ce premier dimanche de l'Avent, je relèverai un ou deux mots juste dedans. C'est cette annonce que fait l'ange. Et il dit, soyez sans crainte, je vous annonce la bonne nouvelle. C'est le début de l'Avent. Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. La suite, on l'a lu. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. » Et je crois que ce que Dieu nous demande simplement, en nous donnant sa bénédiction, c'est que nous soyons vraiment ces hommes et ces femmes de bonne volonté. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne semaine à chacun. Amen.